C'est bon ?
Là, il est parti.
Il marche, là. Toc, toc. Toc, toc.
Il marche.
Toc, toc. Il marche. Pardon.
Les autres lunettes.
Oui, mais je ne la vois pas, donc ça va.
Bien. Oula. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. 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 Je vais commencer par vous dire. Je vais essayer en fait. Je vais commencer par vous dire quelques mots sur les deux associations qui ont conjugué leur effort pour. Qui ont l'habitude de conjuguer leur effort pour promouvoir la culture italienne à Orléans. Et ici, on a donc réunis pour demander à M. De Cecatti de venir nous parler de Dante aujourd'hui, tel le titre qu'il a choisi. Je précise d'abord que demain, à 16h, au cinéma Les Carmes, sera projeté le film Dante de Pupi Avati. Il complétera ce week-end, donc qui est consacré pour vos associations, au grand poète italien. La première de ces deux associations, c'est la Dante Alighieri. C'est l'Alliance française et l'Alliance française-italienne, disons. Donc d'abord une école, celle de la langue italienne. Mais que serait une langue sans culture? C'est pourquoi il donne des conférences dans cette salle, il y en aura 8 cette année. Qui s'ajoutent donc à leurs nombreux cours. Je représente ici la Corfi, que je préside, ça donne à la même passion pour l'Italie, et nous avons de plus de monde dans l'année 13 conférences. On a fait des voyages en Italie, et en octobre, on était à Naples encore. Ce sont deux associations qui sont alliées et complémentaires. Aujourd'hui, nous avons souhaité la présence de M. De Secatti, écrivain, il est romancier et biographe, traducteur, éditeur et beaucoup d'autres choses. Consultez donc sa page Wikipédia, vous verrez que ce ne sont pas les seules activités qu'il a. Je ne vais citer que deux des livres qu'il a rédigés. Sa biographie de Pasolini, qui fait autorité, puisqu'en septembre prochain, il sera, ce qu'on appelle sur les grands chemins de Pasolini, à l'occasion de la 20e édition des Rencontres de Chaminadou. Ça se déroule à Guéret, dans la Creuse, du 18 au 21 septembre. Ces rencontres ont été initiées par quelqu'un aussi qu'on connaît bien à Orléans, Pierre Michon, qui est encore présent à la dernière, aux dernières rencontres, même s'il était très fatigué. Monsieur de Secatti a participé à ces rencontres les deux dernières années. Il y a 2 ans, c'était pour Dante, c'est sa spécialité, disons. Et l'an dernier, pour Homère, où il nous a parlé des liens entre la littérature italienne et Homère. Hein. Je vais dire ça. Donc, le deuxième livre après Pasolini, c'est qu'il a traduit la Divine Comédie de Dante. Dante, dont le 700e anniversaire de la mort fut célébré il y a 4 ans. Ce qui indique qu'il n'a pas été l'homme d'une gloire éphémère. Il est l'égal d'Homère et Virgile. J'aurais pu aussi citer Shakespeare et Molière. Enfin, il est tout en, c'est moi qui puisse dire. Notre invité a traduit les 100 chants de la Comédie, qu'il est devenu la divine au cœur du Trecento grâce à Boccace. Dans cette salle, nombreux sont ceux qui sont partis vaillants à l'assaut de cette ivresse de la littérature et qui se sont lassés de sa lecture avant la fin de l'enfer. Alors, René de Secatti, en 2017, a traduit ce livre magistral d'une manière lisible par ceux qui aiment lire. Elle ne comprend pas de notes. Celle qui occupe pour le moins de 200 pages en édition de la Pléiade, vous pouvez courir l'acheter. Au temps moderne, ils sont prévenus, ils auront pu venir aujourd'hui, mais ils sont prêts à déclencher une avalanche si ça vous intéresse. Alors maintenant, cette comédie, puisque Dante a fait comme ça, est-ce vraiment une comédie? Elle débute avec 3 bêtes féroces qui ont failli anéantir la suite de l'histoire. Puis les 33 chants de l'enfer, c'est pas non plus une rigolade. Alors pourquoi ce titre? Je vous en laisse
le choix de me répondre. Pas tout de suite, peut-être. Je vérifie juste que tout marche. Oui.
Merci beaucoup et merci au public d'être nombreux et d'être là. Voilà, alors je vais répondre assez rapidement à votre question comédie, parce qu'en effet, la question a été posée à Dante lui-même. Hein. Voilà, alors donc, d'abord je justifie un peu le titre. Dante aujourd'hui, vous y avez répondu en partie, en disant que je voulais que ce soit non pas un Dante moderne au sens galvaudé du terme, mais simplement un Dante lisible, accessible en effet, et pour lequel les lecteurs ne seraient pas découragés par l'abondance des notes. Parce que, on le sait, hein, les grandes éditions de Dante, vous avez 3 vers, parfois 2 vers en haut de la page, et puis tout le reste de la page est fait de notes. Et donc, pour beaucoup d'ailleurs d'élèves italiens étudiants, Dante était devenu un cauchemar. Parce que c'était un lieu, c'était l'occasion d'une érudition infinie et du fait de difficultés de lecture qui ne sont pas en réalité si nombreuses que ça. Et donc j'explique simplement pour quelles raisons j'ai traduit la Divine Comédie. J'ai traduit beaucoup de livres italiens contemporains ou classiques. Et les contemporains même très souvent citaient Dante sans mettre de guillemets, et j'avais du mal parfois à reconnaître moi-même les vers de Dante qui étaient cités sans être cités, qui étaient entrés complètement dans le vocabulaire des différents auteurs. Si différents soient-ils, ils étaient tous imprégnés de cette culture. Alors, je me suis dit que la meilleure manière de comprendre et de me mémoriser Dante, c'était de le traduire. Et je l'ai traduit pour moi-même et en ne pensant pas le publier. Et je pense que c'est important parce que je l'ai fait avec une très grande liberté que je n'aurais pas eue peut-être si je m'étais dit « ce livre va être publié ». Parce que j'ai pris des libertés qui ne sont pas si excessives que ça. Je vais vous donner quelques exemples. Et des libertés qui venaient du fait que je ne voulais pas mettre de notes. C'est-à-dire que quand les personnages étaient désignés par des périphrases qui exigeaient des notes dans la version italienne originale, j'ai mis les noms des personnages. Et quand, de la même manière pour les lieux. Ce qui fait que, évidemment, ça a apporté des modifications nécessaires hein, au texte, mais ça a facilité considérablement la lecture. Parce qu'un saint n'était plus désigné par le symbole qu'il représentait, comme c'est le cas dans la Divine Comédie, telle qu'elle a été écrite par Dante, mais je mettais le nom du saint. De même, le nom des personnages, le nom des lieux. Alors, pourquoi ça? Parce que, en réalité, pour un lecteur du 14e siècle, c'était évidemment beaucoup plus facile pour de nombreuses raisons. D'abord parce que la culture religieuse était évidemment beaucoup plus naturelle au 14e siècle pour des Italiens, et la culture antique également était beaucoup plus naturelle. Les histoires concernant les héros d'Antiquité étaient très familières aux lecteurs du 14e siècle, et évidemment les lieux. Tels qu'ils étaient désignés, ils les reconnaissaient très facilement. Nous, du fait de la distance du temps et en plus du fait que nous sommes français et pas italiens, nous avons plus de difficultés à reconnaître ces lieux si on n'avait pas de notes. Et pour les personnages, bon, ça c'est une chose. L'autre chose, quant à la modernité, c'est le fait que pour un Italien, la lecture de la Divine Comédie est d'une difficulté variable, mais qu'il y a parfois des pages entières que les lecteurs italiens, même jeunes, même peu cultivés, peuvent parfaitement comprendre. Et donc, j'étais gêné, moi, par les traductions existantes, à l'exception de la traduction de Jacqueline Risset, qui heureusement a remplacé l'ancienne traduction dans la Pléiade, qui est une traduction que je trouve tout à fait remarquable. Mais alors pourquoi, puisque je la trouve remarquable, j'ai ajouté la mienne? Parce que Jacqueline Risset, qui était complètement bilingue, elle vivait en Italie, hein, c'était un professeur de littérature française en Italie, bien que française, bien sûr, d'origine, elle était complètement bilingue et donc elle savait parfaitement mettre le lecteur français en situation similaire, analogue au lecteur italien qui était en train de lire la Divine Comédie. Autrement dit, quand le texte est une très grande facilité de lecture pour un Italien, le texte est très facile à lire pour un lecteur français. Quand il présente des difficultés pour le lecteur italien, pour des raisons chronologiques, des raisons de changement de culture, des raisons aussi politiques, d'environnement, parce qu'évidemment le lecteur du XXe siècle ne connaît pas nécessairement la situation de la Florence du XIVe siècle et du XIIIe siècle, qui au contraire était très familière pour les lecteurs de la Divine Comédie. Donc elle a fait en sorte que le lecteur français soit dans la même situation que l'acteur italien. Mais moi, j'ai voulu faire un pas de plus, peut-être un pas de moins, mais enfin, dans mon esprit, c'est-à-dire que le lecteur ne soit jamais arrêté dans la lecture. Donc, pour l'enfer, c'est relativement facile, parce que l'enfer est très narratif. Pour le purgatoire, c'est un peu plus difficile, et pour le paradis, encore plus, puisque le paradis est en fait un grand traité de théologie. Alors, pour compenser les simplification, entre guillemets, de ma traduction, j'ai fait une très longue préface. Et dans la préface, j'ai expliqué l'arrière-fond théologique qu'il y a dans la troisième partie. Alors, autre chose qui me semblait fondamentale et que je vais essayer de justifier, c'est de trouver un équivalent rythmique en français par rapport au texte original. Alors, le texte original est écrit en endécasyllabes, en vers de 11 syllabes, qui est un vers extrêmement de courant en italien et qui est l'équivalent de l'alexandrin. Mais l'alexandrin qui a un pied de plus. Mais ce n'est pas tout à fait l'équivalent dans la mesure où l'alexandrin a une très grande lourdeur rythmique qui s'entend, on entend le ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ça s'entend terriblement pour l'oreille moderne surtout, à l'exception de très grands écrivains, très grands poètes comme Racine, Baudelaire ou d'autres qui arrivent à faire oublier cette rythmique un peu militaire. Alors l'alexandrin ne convient pas du tout pour traduire l'anégasyllabe italien qui est au contraire très léger et j'ai opté donc pour l'octosyllabe et je vais un peu justifier la chose qui est donc un vers plus court que l'anégasyllabe sinon que la langue italienne est plus longue que la langue française. Les mots, chaque mot italien équivalent de manière générale est plus long, il y a une syllabe de plus de manière courante, hein, cammino, chemin, pour citer le premier vers. Vous voyez qu'il y a trois pieds en italien, il y en a deux en français. Et donc ça permettait de ne pas trop sacrifier en ayant ce rythme-là. Et je disais, quand j'ai terminé ma traduction, je me suis rendu compte que Dante avait traduit le roman de la Rose, qui est en octosyllabe, justement, le roman de la Rose en français et médiéval, et il l'a traduit en italien en vers de 11 syllabes. Donc lui-même avait trouvé la situation exactement symétrique en traduisant du français vers l'italien. Donc c'était une sorte de justification. Alors, comédie. Pourquoi ça s'appelle la comédie? Et c'est très important. Bon, la comédie, il y avait une raison. Une comédie est une pièce qui se termine bien. La tragédie est une pièce qui se termine mal, et bien sûr, la comédie se termine, la divine comédie se termine bien, parce que ça se termine au paradis. Donc, c'était un premier sens, mais le sens plus profond, dont l'a explicité en donnant l'origine du terme comédie. Comédie, dit-il, c'est un mot grec, l'équivalent grec, qui signifie chant de village. Et c'est très important. Un komé, c'est le village en grec, et oidos, donc le champ. Et champ de village, c'est très important, ça voulait dire que des paysans pouvaient comprendre. Et c'est un texte qui pouvait être compris par des gens simples. Et ce qui veut dire que tout usage de l'archaïsme dans la traduction est contestable, parce qu'il fallait absolument qu'il y ait un accès direct. Et je rappelle que quand Dante a écrit la Divine Comédie, l'imprimerie n'avait pas été inventée. Et donc, en réalité, la Divine Comédie était lue, elle était entendue. Il y avait un lecteur qui lisait la Divine Comédie. Et donc, il fallait du premier coup que le public comprenne. Et même des gens simples. Et pour nuancer son approche, parce que quand même, Dante était tout à fait conscient que son texte était complexe, était beaucoup plus complexe qu'il n'apparaît, il fallait définir des niveaux de compréhension. Alors il l'a dit dans une célèbre lettre à son mécène, hein, qui était Can Grande della Scala, qui était un riche mécène de Modène, il l'a dit, c'est dans une lettre où il explique très brièvement, en une dizaine de pages, le sens et la fonction de son poème, et il dit, c'est un poème qui nécessite quatre lectures. Une lecture littérale, une lecture allégorique, une lecture morale, et une lecture anagogique. Il explique ce que sont ces quatre lectures. La lecture littérale, c'est les événements qu'il raconte. Alors évidemment, c'est surtout l'enfer qui se prête à cette lecture. Puisque l'enfer, c'est pas par hasard que l'enfer est la partie la plus lue, la plus connue, la plus illustrée de la Divine Comédie, parce que ce sont des histoires politiques, mythologiques, historiques, qu'on peut raconter. Et donc, on peut comprendre uniquement ce qui est dit, et sans aller plus loin. Il y a une lecture morale, qui est la lecture qui consiste à tirer une morale de ce que l'on a lu, et donc évidemment qu'il y a un degré supplémentaire. Il y a la lecture allégorique, et la lecture allégorique, dit Dante, c'est la lecture des fables. Quand on lit des fables, quand on lit des contes, on ne se demande pas, à vrai dire, si c'est totalement vraisemblable. On accepte que ce qui est raconté cache quelque chose qui est derrière, qu'il symbolise. Et évidemment, la Divine Comédie est pleine d'histoires qui sont racontées et qui ne doivent pas être prises uniquement à la lettre. Et enfin, la lecture anagogique, qui est la plus complexe et qui est dite dès les premiers vers, en fait, de la Divine Comédie, ça veut dire que le livre doit être lu comme une sorte de manuel de spiritualité. C'est-à-dire qu'on lit la Divine Comédie pour se changer soi-même, pour s'améliorer soi-même. Ça ne veut pas dire que ce soit un livre moralisant, mais simplement un livre qui apprend ce qu'est le bien et à aller vers le bien. Et donc, évidemment, ça concerne essentiellement le paradis. Alors, la structure du livre est relativement simple, de la Divine Comédie, puisque, je vous rappelle, évidemment, s'inspirant du voyage chez les morts qu'il avait lu chez Virgile, dans l'Énéide, Dante imagine donc un voyage chez les morts alors que lui-même n'est pas mort. Et qui est la même situation d'ailleurs que Aîné quand il va chez les morts. Donc lui-même n'est pas mort, et c'est très important parce qu'il va y avoir de très nombreuses références à travers toute la Divine Comédie au fait que c'est un vivant parmi les morts, et qu'il est accompagné par Virgile, bon, puisque au fond il a puisé l'inspiration, l'origine, dans la lecture de l'Énéide. Et Virgile lui-même pose un problème, lui est mort, mais simplement il ne devrait pas être dans tous les endroits où va aller Dante, et notamment Virgile qui n'a pas été baptisé, puisqu'il précède le Christ. Virgile ne peut pas aller au paradis, c'est absolument impossible, et c'est la raison pour laquelle, si Virgile est présent en enfer et au purgatoire, il ne l'est plus au paradis, où il est remplacé par Béatrice. Ça va être Béatrice qui va conduire Dante dans un endroit qui n'est pas vraiment un endroit, qui n'est plus réaliste, qui n'est plus matériel, où les âmes ne sont plus visibles. Ce sont des âmes élues. Alors que les âmes qui sont en enfer et celles qui sont au purgatoire ont gardé leurs caractéristiques de vivant, sinon qu'elles n'ont plus vraiment de corps matériel, et donc elles ne font pas d'ombre, par exemple. Hein. C'est comme ça que dans l'enfer et dans le paradis, les âmes se rendent compte qu'il y a un intrus, qui est Dante. Parce que y a beaucoup de scènes qui sont cocasses. D'abord, il fait de l'ombre. Donc Dante fait de l'ombre. Quand il y a une lumière derrière lui, on voit une ombre et les âmes sont stupéfaites parce que elles ont un corps, mais un corps immatériel qui ne fait pas d'ombre. Ou il y a une célèbre scène où il se met sur la barque de Caron qui traverse l'Achéron, et on voit que la barque penche d'un côté. Et donc ils sont stupéfaits, les âmes comprennent qu'il y a un corps pesant dans la barque. Et donc il faut que que Virgile explique, eh bien oui, il y a un vivant parmi nous et je le guide parmi vous. Ces détails sont importants parce que ça implique une réflexion très profonde de Dante sur le statut de sa propre personne, c'est-à-dire dans le livre. Dante a écrit parallèlement à la Divine Comédie un texte de réflexion qui s'appelle Le Banquet, comme le banquet de Platon, mais ce banquet-là est une réflexion, c'est une alternance de poèmes et de textes théoriques, où il parle beaucoup hein, de l'écriture de la Divine Comédie, et notamment il parle du statut du je, J-E, c'est-à-dire quel est le je qui s'exprime dans la Divine Comédie, quel type d'humanité. Il se trouvait dans une situation délicate parce qu'il allait mettre dans un livre populaire, donc comédie, comme je vous ai dit, comédie chant de village, des questions théologiques. Et des questions théologiques qui jusque-là étaient traitées en latin. Et là, c'est traité en italien, et un italien que tout le monde parle. Et donc, c'était mettre au niveau non initié des thèses, des théories théologiques qui étaient réservées normalement à des prêtres ou des gens extrêmement érudits qui s'exprimaient uniquement en latin. C'était pour Dante extrêmement important de défendre la langue vulgaire. Hein. Il parle de la langue vulgaire qui est simplement la langue que tout le monde parle, ce qui n'est pas une langue réservée à l'écriture. Et donc, de la même manière, quand il va introduire sa propre personne dans un texte qui a au fond une fonction théologique, c'est un problème d'un point de vue religieux, et ce n'est pas le seul problème que va poser la Divine Comédie, parce qu'il va user d'une très grande liberté, pas uniquement linguistique, mais aussi philosophique, par rapport à des thèmes qui étaient jusque-là le domaine réservé des théologiens. Et lui-même, en fait, a une formation de théologien, mais ce n'est pas en tant que théologien qu'il va s'exprimer. Il va simplement aborder des problèmes théologiques dans des situations qui sont toujours narratives, qui ne sont pas réflexives, puisque c'est le voyage d'un homme mort et d'un homme encore vivant parmi les morts, et il tient à raconter ce voyage d'une manière extrêmement matérielle. Autrement dit, c'est un roman. C'est un roman avec deux personnages et qui portent leur histoire, et notamment Dante. Alors ça aussi, c'est un autre problème à propos de la modernité du texte. Dante, quand il écrit l'Enfer, va parler de plusieurs choses. Bon, il va donc voir successivement les âmes qui sont suppliciées, qui ont fait le mal, selon une certaine gradation, hein, de la moins grave à la plus grave. Une des moins graves, ce qui est aussi une prise de position assez extraordinaire, une des moins graves, c'est l'adultère, par exemple, et la plus grave, c'est la traîtrise, le double langage, l'escroquerie, l'imposture. Et ce choix qui n'est pas du tout le choix de l'Église, hein, ce n'est pas du tout une gradation de l'Église, vous imaginez, mais mettre l'adultère comme le plus léger des défauts, ce n'est pas exactement dans la lignée du XIVe siècle. Je vous dis ça parce qu'un des chants les plus célèbres, c'est le cinquième chant en Italie, qui parle de Francesca da Rimini et de son amant, et ce chant est devenu à inspirer tant de poèmes, tant d'œuvres musicales, comme au fond, ça devient des héros, ce n'est pas du tout des damnés. Hein, donc, il en était conscient, Dante, de faire ce choix qui pouvait apparaître comme blasphématoire. Donc, je vous dis, le fait qu'il ait réfléchi sur sa fonction de narrateur, et ce n'est pas simplement une posture hein, littéraire, c'est beaucoup plus, parce qu'il va devoir amener avec lui beaucoup de problèmes qui concernent sa propre vie. Il était à Florence, bon, il va régler son compte à ses ennemis politiques, puisque Florence était complètement divisée hein, entre les Guelfes et les Ghibellins, et donc qui étaient deux factions politiques complètement contraires, en même temps en guerre contre la France, en guerre contre les États du pape. Et donc, c'est une Florence absolument explosive qu'il va décrire, et il va faire apparaître des personnages qui le concernent directement, dont il a été le témoin, qu'il a vu agir, et sur lesquels il va apporter son jugement. Mais ce n'est pas la seule chose que va décrire l'enfer. Parallèlement, Dante va décrire deux choses très importantes, l'histoire de l'Église, avec comme objectif d'attaquer directement la papauté, en tous les cas les papes, en tous les cas le pape qui était contemporain, qui est Boniface VIII, qui va mettre en enfer avant même sa mort, d'ailleurs il n'était pas encore mort, que déjà il le mettait en enfer, Dante, mais il va faire une sorte d'histoire de l'Église tout à fait extraordinaire. Et en même temps, une histoire de l'Empire romain, à partir de l'Antiquité jusqu'à nos jours, et en mettant en scène des personnages qui appartiennent soit à l'histoire réelle de Rome, soit à la mythologie. Une des choses paradoxales qu'il y aura dans l'enfer, parmi les multiples paradoxes, vous savez, comme le jugement dernier n'a pas eu lieu, donc normalement, il ne doit pas savoir qui est en enfer, qui est au purgatoire et qui va être sauvé au paradis. Et alors, Dante naît un personnage qui n'appartient pas du tout à la mythologie chrétienne, hein, et qui est Minos, Minos, dieu des enfers. Donc, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui décide qui va être en enfer et qui va être au paradis. Et il fait apparaître cette divinité qui, normalement, ne devrait pas avoir sa place. Voilà, alors donc, face à ce monument qu'est la Divine Comédie, évidemment, la question qu'on se pose, c'est comment la lire maintenant. Je vous ai dit pourquoi j'avais essayé de trouver un rythme de lecture qui facilite l'avancée. J'ai essayé de trouver des moyens de ne pas arrêter la lecture quand il y a des personnages qui sont présentés de manière détournée. Et aussi, bon, comment faire que ce texte nous parle directement. C'est-à-dire, évidemment, les événements politiques qu'il raconte sont extrêmement éloignés, c'est l'histoire de Florence. Mais en réalité, les problèmes qu'il dégage, enfin, ce qu'il retient de tout ce qu'il décrit, en réalité, nous parle directement. La Divine Comédie n'a jamais été lue en Italie comme un manuel religieux, bien entendu. Hein. Et donc on savait qu'il y avait une force blasphématoire insolente dans le livre, même s'il se référait à un corpus théologique qui était le même que le corpus sur lequel écrivaient les théologiens chrétiens. Il aurait pu transformer son texte en manuel théologique. Il y a à l'intérieur du livre, et notamment surtout dans le Purgatoire et dans le Paradis, des polémiques scolastiques, par exemple. Quand Dante écrit, donc c'est au début du XIVe siècle, il y a toute une polémique sur le fait, a-t-il été formé à la Sorbonne ou non? On ne sait pas en réalité si Dante est venu à Paris. On le pense parce qu'il cite beaucoup de théologiens français. Et donc on pense qu'il est possible qu'il soit venu en France et qu'il ait suivi des cours et donc à assister à des débats théologiques typiquement français. Ce sont des débats sur de multiples sujets. Hein. Ça pouvait être sur l'incarnation, ça pouvait être sur la résurrection de la chair, autant de thèmes qu'il aborde dans le livre de manière extraordinairement brillante et qui fait que le livre apparaît comme une sorte d'encyclopédie des savoirs, du savoir du début du XIVe siècle. Alors, je vous donne quand même un certain nombre d'éléments sur la vie de Dante pour que vous voyez à peu près à quel moment ça se situe. Quand il écrit donc la Divine Comédie, il a 35 ans, ce qui explique au milieu du chemin de notre vie. Hein, c'était à peu près l'âge moyen d'un homme. Un homme mourait à 70 ans, dans la plupart des cas, à l'époque de Dante. Donc il était exactement au milieu de sa vie. Il est donc né en mai 1265 et il va mourir, non pas à 70 ans, plus jeune qu'il ne pensait, il va mourir donc en 1321, parce qu'il a contracté la malaria. En fait, il revenait de Venise et il meurt à Ravenne. Donc, quand il écrit la Divine Comédie, c'est entre 1306 et 1320, il situe l'action de la Divine Comédie pendant une semaine seulement, donc tout le voyage des 14 000 vers a lieu en une semaine, au moment du jubilé, en 1300. Donc, alors, ce qui pose toutes sortes de problèmes parce qu'il décrit parfois le passé comme si c'était le présent et l'avenir aussi comme si c'était le présent, puisqu'il même s'il date dans la Divine Comédie l'an 1300, c'est en fait Pâques 1300, en réalité il va prendre d'énormes libertés puisqu'il va rassembler tout dans un seul moment. Il avait la partie politique est aussi extrêmement explicite hein, dans le livre, puisque le livre a une fonction politique, et notamment il espérait que l'empereur romain de l'Empire romain germanique, hein, Henri VII de Luxembourg, rétablirait la Florence telle qu'il l'aurait aimée. Il espérait, vous savez que c'était un monarchiste. Il défendait l'idée, il a écrit d'ailleurs un essai qui s'appelle « Des monarchias », et donc il espérait que la Florence complètement morcelée qu'il avait connue serait réunifiée. Voilà. Autre, ce qui dans le livre tient à la situation politique dans laquelle il était. Quant à sa situation personnelle, il va y avoir le rôle de Béatrice. Alors Béatrice, elle existe, hein, elle va l'exister, Beatrice Bottinari, qui était une femme dont il était tombé amoureux quand il était encore enfant, enfin il sortait à peine de l'enfance, et il l'a vue donc, ils se sont rencontrés en 1274, il avait donc 9 ans, et il ne l'a revue qu'une fois, en 1283, et au fond, ils n'ont jamais eu de relation, il l'a complètement idéalisée, il s'est marié en fait, quand il écrit la Divine Comédie, il est marié avec une autre femme, qui s'appelle Giulia Gemati, et qui va d'ailleurs apparaître dans la Divine Comédie, mais avec un rôle tout à fait secondaire, alors que, évidemment, Béatrice devient un être totalement exceptionnel. Alors là aussi, c'est une chose très particulière à la Divine Comédie. Dans le banquet et dans la Vita Nuova, Béatrice apparaît, et il explique qu'au fond, Béatrice, évidemment, qui est la bienheureuse, hein, ça veut dire en italien, est une sorte d'intermédiaire entre un être humain et une divinité. Enfin, une divinité, elle est comme le porte-parole de la sagesse théologienne, si on peut dire, et elle est souvent la porte-voix de la Vierge. Et donc, elle a un rôle extrêmement important, parfois dans le banquet. Dante dit, au fond, Béatrice, c'est l'allégorie de la philosophie au sens noble du terme. Donc, elle a un statut de personnage très particulier dans la Divine Comédie. C'est d'ailleurs pas un personnage sympathique, elle est assez antipathique parce que elle reprend très souvent Dante, qu'elle trouve trop naïf, et elle lui rappelle certains principes théologiques. Donc il lui a donné un rôle assez extraordinaire par rapport à l'image que l'on peut avoir, hein. Ce n'est pas la Laure de Pétrarque, Béatrice, ce n'est pas la femme éternellement aimée. c'est une femme qui a un rôle beaucoup plus que amoureux, un rôle de théologie. On disait d'ailleurs, on l'a surnommé le docteur en théologie. Béatrice, donc, elle n'était pas, mais telle qu'elle a été représentée par Dante. Alors, je vous disais que ces éléments biographiques très transfigurés amenaient Dante à poser régulièrement des questions au cours de la Divine Comédie sur le statut du narrateur. D'ailleurs, vous savez que le nom de Dante n'est prononcé, son nom, qu'une seule fois et très tardivement dans le livre. C'est justement Béatrice qui lui dit, qui s'adresse à lui en lui disant Dante, qui est un prénom, hein, je vous rappelle, Dante. Et donc, brusquement, on sait au bout de plusieurs milliers de vers qui est le personnage qui parle. Jusque-là, en fait, on ne le savait pas en lisant. Et donc, ça aussi, c'est une des plaisanteries, si vous voulez, du texte. Le fait que le texte, comme je vous le disais, était fait pour être dit, fait que la partie visuelle est très très importante dans la Divine Comédie, dans l'enfer. D'où le succès, la bonne fortune du livre quand il a été illustré, parce que c'était très facile d'illustrer ce qui était décrit. Et la vision, justement, va être un des thèmes fondamentaux de la Divine Comédie, pas uniquement parce que les scènes sont très visuelles, mais parce que le regard est interrogé constamment par Dante. Et il y a d'ailleurs à l'intérieur c'est dans le Purgatoire, un véritable traité d'optique. C'est-à-dire qu'il décrit ce qu'est la réflexion, ce qu'est la réfraction, ce qui se passe dans l'œil, comment l'image est inversée à l'intérieur de l'œil. On avait une connaissance de l'optique déjà très profonde au XIVe siècle. Et c'est très important parce que, notamment pour le paradis. Pourquoi ? Parce que le paradis, c'est la description du ciel. Mais c'est une description qui n'est pas simplement une description spirituelle et théologique, mais c'est une description très précise d'un point de vue astronomique. Donc, et astrologique d'ailleurs également, parce qu'il se réfère également aux zodiaques, mais astronomique. Et alors, très souvent, pour désigner la situation, par exemple, ou même le temps dans lequel les choses se passent, il se réfère aux positions des planètes. Et ce qui fait qu'on pense que Dante avait une connaissance très profonde de l'astronomie à travers les astronomes persans. Il avait une connaissance extrêmement précise, et arabe également. Donc il communiquait pour pouvoir fonder, au fond, son texte. Je voudrais prendre, vous savez, quelques exemples pour essayer d'expliquer ce qu'est la narration même de la Divine Comédie quand il dit « je » et quand il dit « nous ». Le premier vers, tout le monde le connaît, « Nel mezzo del cammin di nostra vita », que j'ai traduit par « un mi-parcours de notre vie ». Et alors là, il y a un mot très important qui est « notre ». Pourquoi ? Parce que « notre », évidemment, il s'englobe lui, « je », en tant qu'être vivant, et le reste de l'humanité, mais surtout, « notre vie », ce n'est pas la vie. « Notre vie », c'est la vie sur Terre, de la naissance à la mort, mais la vraie vie va venir après. C'est donc ce qui fait que, déjà, dans le premier vers, il y a une position théologique. Ce que je vais décrire, au début du livre, du moins, c'est comment quelqu'un qui est encore dans la vie va entrer dans la vraie vie, qui est celle que je vais décrire dans toute la Divine Comédie. Voilà. Alors, il s'adresse au lecteur en disant « notre » et il les englobe. Ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire qu'au fond, le dialogue ne va jamais être abandonné et il sait toujours ce qu'il écrit, qu'il y a en face de lui quelqu'un qui participe de la même condition, de sa propre condition d'être humain, mortel, et qui n'est pas encore dans la vie. Et donc il s'adresse au lecteur en leur rappelant qu'il y a un sort qui leur est échu et qu'il partage avec eux. Le contexte, bien sûr, ça veut dire que le contexte dans lequel est écrit la Divine Comédie est d'emblée religieux, puisqu'il y a un autre monde. Mais en même temps, il sait qu'il le présente de manière symbolique, pas uniquement réaliste, même s'il donne des repères extrêmement précis dans l'enfer. L'enfer va être, si vous voulez, le chant, le cantique, on dit les 34 premiers chants, du temps. C'est-à-dire que, à la fois de l'histoire et du temps, il prend des personnages qui sont pris dans une temporalité, il rappelle les dates, tout est, si vous, sans que le texte soit complètement chronologique, puisque en fait, c'est organisé en fonction de la gravité des peines qu'endurent les damnés et de la gravité surtout des crimes qu'ils ont commis. Mais le temps est vraiment fondamental. Le deuxième, le purgatoire, c'est au fond le cantique de la géographie, de l'espace. Parce qu'il est très, si vous lisez attentivement le purgatoire, vous verrez que Dante prend soin de décrire le chemin très particulier, puisque le purgatoire est une montagne. L'enfer est un entonnoir. On descend complètement au fond, mais il ne décrit pas en fait la descente, mais on sait qu'on descend de plus en plus. Alors qu'au contraire, le purgatoire est une énorme montagne et il décrit très précisément tous les problèmes que pose l'escalade de la montagne, comment on passe d'un niveau à l'autre. Et c'est un déplacement physique qui est très important, d'autant plus que le paradis ne sera ni dans le temps, ni dans l'espace, mais dans quelque chose qui est absolument irreprésentable. Et quand vous lisez attentivement le paradis, vous vous apercevez que la plupart du temps, il s'arrête et dit « ça je ne peux pas le dire, c'est au-delà de mes possibilités, c'est indescriptible, là la pensée, la parole s'arrête ». C'est extrêmement important parce qu'il va décrire quelque chose qu'il présente comme absolument indescriptible. Et quand il monte de sphère en sphère dans le paradis, puisqu'il va aller jusqu'au lieu où se trouve la Vierge, donc qui est le sommet du paradis, il prendra toujours soin de dire qu'il va d'un cercle à l'autre comme si c'était pratiquement une télétransportation. Et d'ailleurs, il utilise un mot qu'il invente, qui est « translato », c'est-à-dire « transférer », mais ça veut dire qu'il ne va pas décrire le chemin. Autant dans l'enfer et surtout dans le purgatoire, le cheminement est décrit, autant dans le paradis, ce n'est pas le cas. Dans le paradis, on passe d'un champ à l'autre d'une manière absolument simultanée et sans espace. Et par ailleurs, les âmes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne peuvent pas être représentées, ce sont des lumières. Donc il a toutes sortes de mots pour désigner les âmes, qui sont comme, c'est pas des étoiles, c'est comme des éclats, des lumières qui n'ont pas de forme, et qui sont dans un... Évidemment, parce qu'il veut se représenter le monde paradisiaque, le monde après la mort, comme un monde d'une pureté totale. Or, qui dit pureté dit absence de corps. Chaque fois que le corps, la chair est indiqué, c'est qu'on est dans un monde impur, parce que corruptible, tout simplement. La chair n'a qu'un temps et il va se dégrader, alors que l'être dans lequel, le monde dans lequel vit se maintiennent les âmes, et les âmes élues, n'a plus de temps, n'a plus d'espace, ne connaît pas la corruption. Bon, il y a eu différentes manières de représenter cette absence d'espace et cette absence de temps, qui est souvent symbolique, hein, bien sûr, dans la Divine Comédie. Et il y a notamment, enfin, plusieurs passages, il faudrait les lire précisément, où des inscriptions se font, les lumières des âmes forment des inscriptions qui sont parfois des mots latins, parfois des mots incompréhensibles, et qui donnent une idée de ce qu'est l'éternité, mais sans que Dante l'explicite complètement. Pour préciser un peu l'usage que faisait Dante de la langue, hein, de la langue vulgaire et de la langue tout court, il y aurait quelques exemples à donner. Il y a des moments, vous savez, dans la Divine Comédie, outre l'italien, il y a le latin. Quand des psaumes sont cités, ils le sont en latin. Il y a quelques termes en hébreu, et il y a du provençal, parce que les troubadours ont un rôle extrêmement important dans la Divine Comédie, et parfois s'expriment en provençal. Bon, il y a un chapitre, un passage célèbre où un troubadour apparaît et s'exprime dans sa propre langue, et il y a des langues incompréhensibles, donc qui ont posé des problèmes à tous les spécialistes de Dante. Il y a deux ou trois passages où c'est souvent la langue du diable. Le diable s'exprime, enfin c'est Satan, s'exprime dans une langue que personne ne comprend. Alors c'est pas du tout l'incompréhension de la divinité, parce que il dit aussi qu'il y a des moments de béatitude qui sont impossibles à décrire et à comprendre, mais il y a une autre chose qui est donc la langue diabolique, la langue qu'on ne peut pas comprendre. Alors évidemment, il y a notamment, hein, le passage sur la tour de Babel et sur Nemrod. Pourquoi il fait un sort à la tour de Babel et à Nemrod, Dante? Parce que l'idée d'une multiplicité de langues qui nous a éloignés de la langue du paradis, de la langue unique, c'est un des sorts de l'humanité. Et alors c'est extrêmement intéressant, parce que lui-même, qu'est-ce qu'a fait Dante? Il a utilisé le toscan pour unifier les langues italiennes. Et donc lui-même a essayé de créer une langue unique. Et la multiplicité des langues, là aussi, relève de la condition de l'humanité, c'est-à-dire que nous avons perdu le contact direct avec la langue de Dieu. Hein, c'est ce que implique, hein, la malédiction de Babel, puisque c'est l'orgueil de Nemrod d'avoir voulu aller aussi haut que le ciel. Et la punition, c'est que du jour au lendemain, les hommes parlent des langues diverses. Je vais vous citer un passage justement de ce chant où il représente la tour de Babel. C'est là qu'il y a une langue inconnue. Un des passages où il y a une langue inconnue qu'aucun traducteur ne peut traduire, et que de toute façon, même en italien, il n'y a aucune traduction qui est possible, enfin aucune note qui explique le sens de ces mots. « Raphaël mai amèche » cria l'ignoble gueule que flattait ce doux psaume, « Zabi almi » Donc tout ça sont des mots qui n'appartiennent à aucune langue. « Bougre d'idiot, lui dit mon maître, recours au corps qu'il te défoule quand la colère t'envahit. Prends-le à ton cou où il pend, âme confuse. Embouche-le, il repose sur ta poitrine. » Ça, c'est Virgile qui s'adresse à Nemrod. Puis Virgile, m'expliqua, c'est Nemrod qui se confond lui-même après avoir multiplié les langues. Il est vain de lui parler dans notre langue, qu'elle ne comprend pas plus que, son, que nous, son charabia. Et donc, c'est un passage important, parce que, en fait, Dante est à la recherche d'une langue unique et transparente qui permette un accès immédiat à la divinité. Et c'est aussi, c'est comme ça qu'on comprend pourquoi il considérait l'escroquerie, l'imposture, le double langage comme la faute la plus grave. Parce que, au fond, la falsification auquel procèdent les escrocs et les imposteurs, c'est la preuve de la perte de la vérité, la perte de l'accès à la vérité. Et donc, ce n'est pas uniquement une condamnation morale qu'exprime Dante, mais quelque chose de plus qui est auquel doit répondre la poésie, enfin son œuvre. Sinon que sa poésie bute constamment contre l'immensité de la tâche et qu'il ne cache pas le fait qu'il soit obligé parfois de se taire face au réel. Voilà, alors maintenant je voudrais entrer un peu plus précisément dans ma technique de traduction, parce qu'au fond là je vous ai présenté de manière générale la Divine Comédie, mais comment la rendre maintenant moderne et accessible alors que beaucoup d'éléments sont extrêmement éloignés de nous. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que très souvent, j'avais substitué à des métaphores et à des périphrases le nom des personnages, le nom de lieu, le nom des divinités pour rendre la lecture plus directe. Par exemple, je vais vous donner la liste des personnages auxquels se réfère Dante et qu'il ne nomme pas, mais qu'on comprend par les périphrases, que l'on comprend par le contexte. Narcisse, le personnage mythologique. Adam lui-même n'est pas nommé, alors qu'il va avoir un rôle extrêmement important théologiquement Dante aborde le problème, un problème théologique qui est le premier homme, disons, de l'ère chrétienne, qui est le premier homme qui a sauvé le monde. Il dit, est-ce que c'est Adam, le premier homme de la Genèse, ou est-ce que c'est Salomon? Mais il ne nomme pas Adam et il ne nomme pas Salomon. Et donc, vous voyez que la lecture, évidemment, est rendue difficile. Alors, évidemment, les commentateurs on met toujours en note, il s'agit d'Adam, il s'agit de Salomon. Mais moi, dans mon texte, j'ai mis directement. La lune n'est pas nommée, par exemple. La lune, il le fait par métaphore. La messagère des dieux, Iris, n'est pas nommée. Romulus, créateur de Rome, n'est pas nommé. L'archange Raphaël n'est pas nommé. Agamemnon, Phaéton, parfois Énée, il dit les Troyens, mais en fait, on s'aperçoit dans le texte qu'il ne désigne que Énée, le personnage d'Énée. Parfois, des lieux, l'Afrique n'est pas nommée, le continent africain, mais il s'agit, en lisant le texte, on s'aperçoit qu'il s'agit de l'Afrique. Aristote, le philosophe, n'est pas nommé. Il est nommé par une périphrase. Dédale, qui va mourir dans les flammes, n'est pas nommé. Saint-Pierre et Saint-Paul ne sont pas nommés. Saint-Jacques non plus. Et les villes, Florence est désignée par une périphrase. Fiesole, Carthage aussi avait une... Évidemment, c'était une ville symbolique extrêmement importante dans l'histoire de Rome même, hein, bien sûr, mais elle n'est pas nommée. Marseille n'est pas nommée. Constantinople, aussi extrêmement importante pour l'histoire de l'Église, n'est pas nommée. Donc tout est évoqué par périphrase, et donc là, moi par contre, dans mon texte, j'ai été beaucoup plus direct. Alors, il y a aussi d'autres fonctions des noms propres qu'il fallait résoudre dans la traduction. Par exemple, il cite des batailles qui ont été sanglantes, et on comprend qu'il cite cette bataille non pas pour la bataille elle-même, mais pour ce qu'elle représente, ou pour parfois le devenir de Florence. Par exemple, dans un endroit, il parle de Chiusi, donc qui est une ville, mais dans laquelle il y a eu une bataille terrible dans l'histoire de Florence. Ou une autre, c'est Orbisaglia. Et quand il les cite, c'est exactement comme quand nous, non pas que je les traduis comme je vais vous dire, hein, mais simplement c'est comme quand nous parlons de Hiroshima maintenant, Fukushima, Tchernobyl, toutes ces villes attachées à des catastrophes humaines ou naturelles, où on dit les Twin Towers, quand on dit depuis les Twin Towers, ou comme nous dirions maintenant, depuis le 7 octobre, il écrit comme ça en fait. Dante écrit comme ça. C'est-à-dire que quand il dit un nom, il sait très bien que chez le lecteur, ça va évoquer une catastrophe extrêmement précise et il n'a pas besoin de l'expliquer. Donc évidemment, en traduisant, c'est compliqué. Parce que si vous ne voulez pas mettre de notes, et qu'il faut que vous compreniez pourquoi il cite ce nom qui est le nom d'autre chose. Et par ailleurs, il utilise parfois des noms propres pour le symbole qu'elles peuvent représenter, sans que ce soit des noms de lieux, par exemple, sans que ce soit le lieu même qu'il désigne. Par exemple, et à un moment, on comprend qu'il parle de Florence, et il dit Égypte. Égypte, c'est évidemment l'Égypte dans l'histoire de l'Ancien Testament, ce que Égypte a pu représenter. Ou au contraire, il parle de Jérusalem. Jérusalem, c'est au contraire d'Égypte dans la Bible. Et donc, c'est au contraire la ville du salut, de la rédemption, celle qui va permettre une autre vie. Donc, quand il dit « ma Jérusalem », c'est pas de Jérusalem qu'il parle, c'est de la fonction qu'il attend de cette ville. Voilà, donc ce qui fait que c'est une immense charade, la Divine Comédie. Et donc il faut comprendre ce que l'on va privilégier. Est-ce que c'est la lettre même du poème, ou c'est ce que le poème contient et qu'il va falloir expliciter d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi dans la Divine Comédie parfois des blasphèmes qui sont cachés, c'est-à-dire qu'il a une manière de désigner des personnages qui sont méprisants, mais sans qu'il explicite complètement le mépris. Par exemple, comme il n'aimait pas le pape, Boniface VIII, il le désigne, quand il parle de saint Paul qui a inspiré le pape, il va utiliser un terme méprisant, il va pas dire Paolo, il va dire Polo, Popeuelo. Et on comprend qu'en réalité, il veut désigner le pape. Il ne parle pas du pape, il parle de saint Paul, mais en fait, saint Paul, il lui donne un nom qui n'est pas le nom respectueux, et donc d'une certaine manière, ça devient une critique du pape. Bon, ça, évidemment, je ne l'ai pas explicité, mais simplement pour comprendre tout le fonctionnement par lequel il s'exprime. Par exemple aussi pour désigner Jean-Baptiste, il ne dit pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le saint protecteur de Florence. Il ne dit pas Jean-Baptiste, il dit celui qui voulut vivre seul. Donc c'est l'ermite évidemment, c'est Jean-Baptiste ermite, mais le lecteur va comprendre qu'il s'agit de Jean-Baptiste. Moi j'ai mis Jean-Baptiste dans ma traduction. Et parce que évidemment il fallait mettre une note immédiate, hein. Et il ajoute, et qui fut conduit, il faut dire que c'est tout à fait extraordinaire, qui fut conduit au martyr par des sceaux. C'est-à-dire, c'est l'histoire de Salomé. Hein, c'est Salomé qui, en dansant, a conduit... elle a dansé, a eu l'autorisation de décapiter Jean-Baptiste par Hérode. Donc c'est une manière d'aborder, évidemment, la réalité qu'il va décrire, qui est complètement contournée. Alors, en ce qui concerne les nombreuses références philosophiques et de tous ordres, scientifiques, astronomiques, etc., qu'il y avait dans la Divine Comédie, ça je l'ai explicité uniquement dans la préface, mais pas dans le livre lui-même, hein, bien entendu. Je vais vous donner maintenant peut-être un certain nombre d'exemples pour que vous compreniez un peu comment j'ai traduit le texte. En réalité, le choix de l'octosyllabe pour l'indécasyllabe parfois est vraiment complètement naturel. Ça tombe tout à fait naturellement. Je vais vous donner quelques exemples de vers. Le vers 19 du chant 7 du paradis, par exemple, est en italien « Secondo mio infallibile avviso » et que je peux traduire absolument littéralement « selon mon infaillible avis ». Donc ça tombe absolument pile. Et c'est le cas de plusieurs vers dans le paradis. Les vostre cose tutte hanno loro morte, vos choses ont toutes leur mort. Donc vous voyez que ce n'est pas complètement artificiel pour ce type de transposition. Je vais vous prendre un exemple du chant 8 de l'enfer. Et pour voir comment, pour vous montrer comment j'ai fait un certain nombre de transpositions. Alors bon, ceux qui comprennent l'italien pourront suivre le texte italien, mais je l'expliquerai après. Io dico, seguitando, che sai prima che noi fossimo al piede dell'alta torre, gli occhi nostri n'andar suso alla cima. Per due fiammette che vedemmo porre e un'altra da lungi render cenno, tanto che appena li poteva l'occhio torre. E io mi volsi al mar di tutto il senno, dissi, questo che dice e che risponde quell'altro fuoco e chi sono quei del fenno? Bon, c'est une langue facile à comprendre, hein, en italien. À part quelques archaïsmes, hein, de torre, potogliere, enfin bon, mais on le comprend assez facilement. Voilà comment j'ai traduit. Avant d'approcher de la tour, je dois préciser que nos yeux virent se poser au sommet deux flamèches, à quoi répond au loin, à peine discernable, une troisième. En m'adressant à l'océan de toute science, je demandais. Quels sont les signes que ces feux échangent? Qui parle? Alors, pour ceux qui comprennent l'italien, mes raccourcis sont évidents. Mais, et les quelques détails que j'ai omis. Le premier tercé signifie, je vous fais une traduction littérale, hein, du premier tercé. Je dis, en poursuivant, que bien avant que nous ne nous trouvions au pied de la haute tour, nos yeux montèrent vers le sommet, attirés par deux petites flammes que nous vîmes se poser et une autre faire signe de si loin que nos yeux ne pouvaient le saisir qu'avec peine. Et je me tournai vers la mère de tout savoir, je lui dis, qu'est-ce qu'il dit et que lui répond cet autre feu et qui est-ce qui font ces choses? Donc, en fait, le sens est le même, hein. Il y a peu de choses que j'ai omises, parce que c'est un passage en réalité très simple de la Divine Comédie, aussi bien par sa forme que par son sens. Donc il y a des passages où en réalité mes options de modernisation sont assez naturelles. Je vais vous donner un autre exemple, qui est l'exemple du chant 13 des suicidés. C'est un des chants les plus connus des enfers, hein, où les suicidés sont transformés en arbres et se plaignent, parce qu'on ne peut pas leur arracher des feuilles, parce qu'on a envie d'arracher des feuilles comme ça en passant aux arbres, auprès des arbres, et ils se plaignent parce que c'est leur chair qu'on arrache. C'est un chant qui est cité par l'écrivain japonais Kenzaburo Oe, qui est un écrivain que je traduis également du japonais. C'est un écrivain que j'aime beaucoup et qui a été très frappé par le suicide d'un de ses meilleurs amis. Et donc il citait très très souvent ce chant 13. Alors je vous le lis en italien le début, hein, les quatre premiers versets. Non era ancor di là nesso arrivato quando noi ci mettemmo per un bosco che da ognun sentiero era segnato. Non fronda verde, ma di color fosco, non rami schieti, ma dodosi e involti, non poi veran, ma stecchi con tosco. Non ha so aspri sterpi né si folti quelle fieri selvagge che non li hanno, tra Cecina e Corneto i luoghi colti. Quivi le brutte arpie l'ornili fanno che cacciar delle strofa dei troiani con tristo annunzio di futuro danno. Et j'ai pris ce passage parce que il est très très symptomatique des différents registres qu'utilise Dante dans la Divine Comédie, qui sont à la fois des allusions à la vie quotidienne, des références historiques. Vous allez voir, bon, il y a Énée, c'est là que Énée n'est pas nommé, mais c'est de lui qu'il s'agit, et aussi à des histoires politiques. C'est extraordinaire, parce qu'il est en train de décrire le lieu des suicidés, et tout surgit, c'est-à-dire à la fois des réminiscences antiques, une situation politique, et tout ça dans un langage qui est presque quotidien. Voilà comment je l'ai traduit. Nessus n'était pas arrivé sur l'autre bord quand on entra dans un bois sans aucun sentier. Arbres noirs plus que verts, rameaux noueux et tortueux sans fruits, des branches mortes vénéneuses. Les prédateurs qui fuient les champs à cornets près de la Cécine hantent des ronces moins touffues. Les affreuses harpies s'y nichent, ayant chassé de leur strophade, Énée en prédisant son mal. En fait, j'ai explicité un certain nombre de choses, notamment Itroyani, que j'ai traduit par Énée, mais le reste, en fait, est décrit de manière extrêmement matérielle et précise. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de changement, à part la présence, bien sûr, de la désignation de Énée. J'ai explicité aussi littéralement en italien quelle fiere selvagge che n'odio hanno tra Cecina e Corneto i luoghi colti, que j'ai traduit par ces fauves sauvages qui ont en haine les champs cultivés, parce qu'autrement on ne comprend pas l'idée de prédation si on traduit autrement. Maintenant, il y a le problème des registres enfantins qui sont nombreux dans la Divine Comédie. Parfois, il a un langage enfantin. Il prend volontairement un langage enfantin pour parler de situations théologiques. Ça aussi, je veux dire que c'est quelque chose qu'il faut tenter de respecter. En mettant le registre très très parlé dans une question qui était traitée jusque-là en latin, évidemment, il y a, euh, une, inévitablement, il y aurait une réaction violente des théologiens, comme si ils blasphémaient ou rendaient les choses ridicules. C'est un passage du chant 32 de l'Enfer, où il s'arrête hein, dans le récit, et il réfléchit sur ce qu'il peut dire et ce qu'il ne peut pas dire, qui sont, comme je vous l'ai déjà dit, des passages assez fréquents, où il arrête le récit et dit « Maintenant, est-ce que je peux décrire ce que j'ai vu ?» Et est-ce que j'ai suffisamment de langage, de possibilités littéraires? Et alors, je vais vous lire d'abord la traduction française, parce que en italien, c'est un peu compliqué. « Il me faudrait trouver des vers rudes, rauques, pour ce trou triste que domine la rocaille. J'extrairais le suc de mes mots plus pleinement. En leur absence, je me prépare non sans crainte. Je ne prends pas à la légère de décrire tout l'univers. Ce n'est pas fait pour un babil. » Vous voyez, il est... Là, j'ai fait le contraire de ce que je fais habituellement. J'ai utilisé le terme babil, qui en fait, dans le texte original, c'est beaucoup plus beau, mais c'est très difficile à comprendre. Voilà ce qu'il dit. Je ne prends pas à la légère de décrire tout l'univers. En italien, c'est che non è impresa da pigliare a garbo. Pigliare a garbo, c'est une expression pour dire prendre à la légère. Descrivere il fondo a tutto l'universo, ça, ça va. De décrire tout l'univers, né da lingua che chiami mamma o babbo. Et ça, je regrette un peu de ne pas avoir gardé. Ce côté, c'est-à-dire ce n'est pas possible avec une langue qui dit papa et maman. Une langue qui dit papa et maman, que j'ai traduit par Babil. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il veut dire. Hein, je veux dire que ce que je décris, c'est pas un petit enfant qui sait à peine parler qui pourrait le décrire. Il n'empêche que je n'y arrive pas. Je suis pire qu'un petit enfant. Et il y a beaucoup de passages semblables, hein, mais c'est surtout dans le paradis, en fait, qu'il y a ce genre de passage où on passe d'un niveau à l'autre et il s'amuse, parce qu'en fait, décrivant l'indescriptible, en fait, Dante est obligé d'avoir recours à différents registres. Et c'est ce qui rend le texte particulièrement passionnant. Par exemple, dans le chant 14, qui aborde le problème de la résurrection de la chair. Grand problème, est-ce que, après la mort, la chair va réapparaître? Ce qu'il ne décrit pas. Dans la Divine Comédie, puisque le jugement n'a pas eu lieu. Le jugement dernier n'a pas eu lieu. Donc, lui, pour l'instant, il décrit un état intermédiaire. Hein, le paradis qu'il décrit, je vous ai dit, ce sont des lumières sans corps. Mais normalement, il y a la résurrection de la chair. Donc, le corps va réapparaître. Grand problème théologique. Donc, quel corps, en quel état, à quel niveau de la vie? Il y a ce passage qui est particulièrement beau et qui est là aussi dit d'une manière très imagée. Je vous lis d'abord ma traduction. Les cœurs des deux rondes, donc il est en train de décrire deux rondes, parce qu'il y a beaucoup de scènes chorégraphiques dans le paradis, et des scènes d'ailleurs aussi musicales, hein. Mais enfin, il y a beaucoup de chorégraphies qui sont décrites extrêmement précisément. Donc ce sont les âmes qui sont là et qui sont en train de préparer un cérémonial. Les cœurs des deux rondes parurent si promptes à crier « Amen » qu'elles montraient vouloir reprendre leur dépouille, moins pour soi que pour leur maman et leurs parents, tous ceux d'avant le paradis. C'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on sent que les âmes veulent absolument reprendre une forme humaine, et comme il le dit, moins pour elles-mêmes que pour leurs parents, que pour retrouver leur papa et leur maman. Et voilà comment c'est en italien, à vrai dire beaucoup plus parlant que ma traduction. Tanto mi parver subiti accorti, e l'uno e l'altro coro a dicer a me che ben mostrar disio dei corpi morti. C'est que j'ai traduit par « Elles montraient vouloir reprendre leur dépouille hein, ». C'est qu'elles montraient bien le désir des corps morts. Mais en fait, le désir des corps morts, c'est de retrouver leur corps sous forme de dépouille. Forse non pour perlo, pas seulement pour eux, ma per le madre, per i padri, per gli altri, che fuor cari, anzi che fosse sempiter o fegato. C'est magnifique, c'est-à-dire que, peut-être pas pour elles, mais pour leur maman, pour leurs parents et pour les autres qui ont été chers avant d'être des flammes éternelles. On ne se rend pas compte, mais pour un théologien, présenter la résurrection de la chair sous cette forme poétique était extraordinairement insolent. Hein, même si au fond c'était, il disait de manière tout à fait juste les choses. Et autre passage que j'aime beaucoup, qui est dans le chant 23 du paradis, où la Vierge apparaît dans la lumière du Christ. Le Christ va apparaître de manière complètement indirecte. Hein, il ne peut pas apparaître sous la forme qu'on se représente physiquement, visuellement du Christ. Il ne va apparaître que sous forme de lumière. Et voilà comment il décrit cette apparition de la Vierge. Et surtout, comment les âmes élues sont attirées par cette lumière. Comme un bébé vers sa maman tend les bras après la tétée, exprimant fort ses sentiments, chacun de ces lumignons, sans doute les âmes damnées, va vers les hauteurs, manifestant l'amour qu'il vouait à Marie. Et c'est un passage extrêmement important, hein, parce qu'il justifie le culte de Marie. Hein, donc théologiquement aussi c'est très important, mais vous voyez comment il l'exprime. « E come fantoline qu'en ver la mamma tende le braccia, poi qu'ella te prese, per l'animo qu'infine di fuor s'infiamma. Ciascun di quei candori in su si stese con la sua cima, sì che l'alto affetto che li avviano a Maria fu palese. Mais ce que je trouve très très beau, c'est e come fantoline che per la mamma tende le braccia, poi che l'alto prese. Comme le bébé tend les mains vers sa mère après avoir pris la tétée. C'est quand même extraordinaire de représenter le culte à Marie sous cette forme qui, évidemment, parle directement. Hein. Voilà, donc il y a comme ça toutes sortes de passages qui montrent la vitalité du texte et sa fonction théologique qui est obligée de passer par tout ce cheminement. Je pourrais prendre des exemples où j'ai pris vraiment plus de liberté et je vais vous en citer un qui se trouve dans le Purgatoire, au chant 3. Et c'est dans le chant 3, Dante, c'est le moment où Dante découvre sa propre ombre. Donc, il s'aperçoit évidemment qu'il fait de l'ombre, contrairement à Virgile, qui n'en fait pas puisqu'il est mort, et les autres. Et alors, il interroge Virgile sur les limites de la raison humaine. C'est une question qui est posée très très souvent à l'intérieur de la Divine Comédie. Qu'est-ce que l'esprit humain peut comprendre de ce que je veux décrire ? Et voici la réponse de Virgile, qui est une réponse philosophique très importante, hein, puisque c'est une question que nombreux philosophes se sont posés sur la distinction entre le rationalisme, la croyance et la religion, et la question de la foi, hein, la foi qui échappe à la raison humaine. Et Ce qui est essentiel et qui, bien sûr, a été commenté, c'est que cette question, il la pose à un païen. C'est Dante qui la pose à Virgile. Virgile qui n'a pas la foi. Et donc, et c'est Virgile qui va répondre. Et voilà ce qu'il lui dit, parce qu'il est, étonné, Virgile est étonné par la réponse, par la question de Dante. Il dit, mais pourquoi cette défiance, dit mon consolateur. Tu crois donc que ton guide te laisse en route? Le soir gagnait la région où j'ai laissé mon corps, dont l'ombre s'étendait autrefois, à Naples, qu'il a pris à Brindisi. Parce que donc, en fait, Dante a dit, mais moi je fais de l'ombre et toi tu n'en fais pas. Et donc c'est pour ça qu'il lui répond, Virgile lui répond, voilà, le soir a gagné où j'ai laissé mon corps, dont l'ombre s'étendait autrefois à Naples, qu'il a pris à Brindisi. D'ombre, je ne fais pas plus que les cieux transparents, ne t'étonne pas. Pourquoi la vertu voulut-elle nous faire endurer gel et flamme? C'est un insondable mystère. Quiconque espère découvrir par quel procédé un même être s'est divisé en trois est fou. C'est le problème de la Trinité, qui est réglé en trois vers. Contentez-vous, frères humains, de constater ce qui est là. Sinon, à quoi servirait la Vierge? Tant de penseurs ont réfléchi si vainement à ces mystères qu'ils sont d'un deuil inconsolable. Vois donc Platon, vois Aristote, et sans encore, la tête basse, il se tue, restant accablé. Vous voyez, donc, je cite ce passage parce que c'est un passage où on voit comment il règle des questions d'une très grande gravité, hein, la Trinité, le maintien ou l'absence de maintien du corps au-delà de la mort, etc. Et je pense que, en fait, c'est un des mystères de la force de ce texte, c'est qu'il a réussi à véhiculer différents enseignements sous une forme qui peut les occulter, c'est-à-dire une forme qui ne les révèle pas nécessairement. Et c'est le propre de toutes les grandes œuvres poétiques, bien entendu. Autre exemple, que sera peut-être le dernier que je vais prendre, dans la traduction, et surtout, ce n'est pas uniquement le problème de ma traduction, mais c'est aussi le problème, la question de l'explicitation ou du caractère implicite des théories qu'avance Dante et de quelle manière il les aborde. Il y a le chant 17 du Purgatoire développe toute une théorie de l'amour. Et il y a comme ça des chants qui sont de véritables petits essais. Hein. Et je vais vous donner le début du chant qui est très beau. Et je choisis aussi ce chant parce qu'il a été extrêmement facile à traduire en français avec mon système. Ricorditi lettore se mai nell'albe ti colse nebbia per la qual vedessi non altrimenti che per pelle d'albe, come quando i vapori umidi e spessi ad iradar cominciassi, la spera del sol debilmente entra per essi. E fia la tua immagine leggera, in giungere a veder come io rividi lo sole in pria, che già nel corcar era. Sì, pareggiavo i miei coi passi fidi del mio maestro, uscì fuor di tal nube ai raggi morti già nei bassi lidi. Voilà comment j'ai traduit. Il t'en souvient, lecteur, perdu dans les Alpes, embrumé comme une taupe, tu voyais peu. Mais le brouillard lourd et épais se dissipant, te révélait le soleil perçant la nuée. Tu pourras donc imaginer comment le soleil me revint juste au moment de se coucher. Ainsi, au rythme de mon maître, je vis sortir de ce brouillard le jour mourant sur ces rivages. Et c'est une introduction, enfin, ces vers sont une introduction donc à la théorie de l'amour. Il prépare le lecteur à un mystère à partir d'une situation complètement quotidienne. Il compare avec le brouillard qui surgit brusquement dans les montagnes. Et c'est aussi une technique qu'il a constamment pour aborder des problèmes fondamentaux, encore une fois, je le rappelle, qui étaient traités dans des traités, des textes en latin et d'une très grande difficulté de compréhension. Et donc lui aborde tout cela de manière beaucoup plus directe. Je terminerai par une dernière citation, puis peut-être je vous laisserai la parole. C'est le chant 23 du paradis où le Christ va apparaître. Et donc c'est un chant extrêmement important parce que ça va être la divinité humaine qui apparaît dans le paradis où normalement on ne voit rien, on ne peut pas voir d'être vivant. Je vais vous lire ma traduction. Je vis sur des milliers de lampes, une seule les enflammant toutes comme le soleil fait les astres. Dans sa vive clarté brillait sa substance pour mes yeux, éblouissante, insupportable. Béatrice, ma chère et douce, elle dit, ce qui te dépasse est vertu dont nul ne s'abrite. S'y trouve le sage pouvoir ouvrant la voie de terre à ciel, après une longue attente. Le feu, libéré des nuages pour exploser hors de ses murs, contre nature, tombe à terre. Ainsi mon esprit, agrandi par le mets divin, sort de lui, oubliant ce qui s'ensuivit. Ouvre les yeux, regarde-moi, tes visions désormais te rendent capable de voir mon sourire. En fait, la lumière est si violente que, comme vous l'avez entendu, Dante perd conscience. Et donc, c'est le moment où Béatrice veut lui révéler le Christ et elle n'y parvient pas. Et là aussi, c'est un texte qui peut choquer, évidemment, les théologiens, puisque l'apparition du Christ échappe à la vue de Dante. Alors, à la fin du livre, à la fin, dans le dernier, tout dernier chapitre, tout dernier chant, pardon, du paradis, Dante se pose la question, mais peut-être ce n'était qu'un rêve. Tout ce que je viens de raconter n'était peut-être qu'un rêve. Ce qui est une sorte de tour de passe-passe, hein, et que Schopenhauer et Nietzsche ont reproché à la Divine Comédie et ce qui les ont empêchés de considérer l'œuvre avec beaucoup de sérieux, parce qu'il dit, au fond, il a eu peur de son propre texte en le représentant, en disant ce n'était peut-être qu'un rêve. Or, moi, je trouve que c'est bien sûr extrêmement important qu'il ait, parce qu'il désigne, qu'il parle de rêve et d'inconscience, enfin de perte de conscience. Parce qu'évidemment, il indique qu'il ne faut pas prendre à la lettre tout ce qu'il a décrit. Ce sont des visions, mais ça ne veut pas dire que ce soit des visions complètement fantasques et irréelles. Ce sont des visions, mais des visions qui ouvrent à une autre forme de perception du réel. Et c'est en ça que l'œuvre est évidemment une œuvre littéraire de très haute envergure, parce que c'est tout l'enjeu de la littérature, au-delà de la théologie et des images fantastiques qu'il y a dans ce livre. C'est l'enjeu de la littérature, c'est-à-dire que ce que je décris, au fond, les mots n'ont peut-être pas suffi à les représenter. Les mots que j'ai utilisés ne suffisent peut-être pas à reproduire la réalité que j'ai vue exactement comme dans un rêve que l'on a du mal à décrire parce qu'il y a une partie réaliste et puis brusquement une partie évanescente et fantasque qui fait qu'on s'interroge au réveil sur la signification du rêve. Et c'est exactement la même chose dans ce grand voyage que fait Dante à travers les enfers, le purgatoire et le paradis, parce qu'il pose la question de la représentabilité de ce qu'il dit, et surtout de la fonction même de la littérature, c'est-à-dire qu'est-ce que les mots peuvent traduire de ce que l'on a ressenti. Et donc, aussi, le fait qu'il change constamment de registre, qu'il prenne parfois un langage très populaire, un langage enfantin, montre au fond qu'il a essayé d'ouvrir plusieurs portes pour révéler ce qu'il semble avoir découvert. Voilà, donc, la Divine Comédie, parce que ça se présente comme une œuvre au fond insatisfaisante pour l'auteur, parce que l'auteur à plusieurs reprises dit « je n'y arrive pas, j'ai fait un saut, j'ai perdu conscience ». Donc, c'est, comme dit Carlo Sola, qui est un des grands spécialistes de Dante, c'est une des fonctions de la littérature d'être inachevé, inachevable. Et ce qui incite justement à retraduire constamment la Divine Comédie. C'est-à-dire qu'on sait très bien que chaque version va être une approche voilà, qui n'est pas complète. Moi, je vous l'ai dit, j'admire énormément la traduction de Jacqueline Risset, que je trouve vraiment tout à fait remarquable, mais elle n'empêchait pas une autre approche. Et puis, je suis certain qu'il y aura d'autres traductions dans différentes langues. Et en même temps que ma traduction a été apparue, une traduction espagnole de la Divine Comédie, exactement au même moment, et j'ai rencontré à Ravenne, on a réuni à Ravenne plusieurs traducteurs de la Divine Comédie en différentes langues, et donc j'ai parlé avec lui, puis nous avons vu nos traductions, en fait elles sont très proches, et il avait un système de traduction assez proche du mien, et je pense un peu pour les mêmes raisons, hein, de proximité, de rendre plus proche le texte. Voilà, donc je vous remercie, et si vous avez des questions à me poser, c'est avec plaisir que j'y répondrai.
D'être divulgué aussi auprès des gens peu instruits, parce que j'ai compris. Et ma deuxième question, c'est actuellement, est-ce que vous savez en Italie quel niveau de classe, ou du moins à quel âge on étudie là, et comment c'est perçu par la jeunesse actuelle, et est-ce que ça encore une fonction politique d'après vous?
Bon, la première question, je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que le texte était dit publiquement dans de grandes réunions, hein, donc il y avait, pas nécessairement Dante, mais il y avait, c'était dit, hein, son poème, il était en exil lui-même, donc ça ne pouvait pas être lui à Florence, hein, à ce moment-là, mais le texte a été diffusé très rapidement. Quand il est mort, la totalité n'avait pas été connue, hein, parce que c'est son fils qui a retrouvé la fin du paradis. Donc, et ça a été rapidement recopié, en fait. C'était recopié, évidemment, par des copistes. Et ça a tardé à être imprimé. Ça n'a pas été imprimé tout de suite. Ça n'a pas été parmi les premiers textes imprimés. Mais enfin, quand même, en France, pour parler de la France, parce que j'ai oublié d'en parler, vous savez, Dante était très impopulaire. Et on a beaucoup tardé à le reconnaître comme un grand poète. C'est au XIXe siècle, en fait. Encore Voltaire le considérait comme un très mauvais poète. Il a pu être réhabilité grâce à la prière de la Vierge qui termine la Divine Comédie. Ça se termine par une prière à la Vierge par Bernard de Clairvaux. Et parce que Bernard de Clairvaux apparaît comme dernier guide dans la Divine Comédie. Et donc, vous savez que l'Immaculée Conception, le dogme de l'Immaculée Conception date du XIXe siècle, de l'Immaculée Conception de la Vierge, non pas la naissance du Christ, mais le fait qu'elle-même a été conçue de manière immaculée. Et donc, il y a eu une très, très vaste... un très vaste intérêt pour le culte de la Vierge. On a eu l'impression que la Divine Comédie aboutissait au culte de la Vierge. Et c'est comme ça, c'est curieux, hein, mais c'est comme ça que la Divine Comédie alors avait été énormément traduite à partir du XIXe siècle. Voilà, mais pour ce qui est de la diffusion, elle a été quand même très très rapide. Hein, on a su l'existence de ce texte. D'autant plus que Dante était un personnage politique en exil et qu'il faisait beaucoup parler de lui, qu'il était entouré de Boccace. Boccace a été fondamental. Hein. Boccace a écrit une vie de Dante et puis a énormément défendu son ami. Hein. Donc, il a fait l'objet d'un culte contesté à Ravenne. Bon, il y a eu toute une histoire, mais finalement, peu à peu, le culte de Dante en Italie s'est installé. Alors, pour ce qui est de l'actualité politique de Dante, hein, est-ce que Dante est lu encore comme la Divine Comédie est lue comme un brûlot politique? Oui, en partie, quand même. C'est-à-dire que Dante est cité quand même très, très... J'ai fait une fois une conférence comme ça... à Pantelleri, vous pouvez imaginer, donc dans cette île qui est complètement au sud-ouest de l'Italie, près de la Tunisie, et qui n'est pas un lieu particulièrement culturel. J'ai fait une conférence et je commence à citer des tercets de Dante, mais la totalité du public a dit avec moi. Hein, je commence à réciter, dans les vers que j'ai cités, il y aurait eu un public italien. J'aurais même pas eu le besoin de lire. Donc, alors, je disais, c'est quand même le cauchemar des enfants italiens, parce qu'on leur fait lire assez vite et dans l'ordre. Hein. Heureusement, d'ailleurs, parce que c'est plus facile à lire. En fait, c'est seconde, première, terminale. Donc, on fait enfer, purgatoire, paradis. Et là, je suis invité en Sardaigne et on m'a demandé dans une université de faire partie d'un jury où je dois juger, évaluer des devoirs qu'on a donnés à des étudiants, je pense aux étudiants de début de fac quand même. On leur a demandé d'écrire des poèmes à la manière de Dante. Et alors, j'ai lu les copies hein, et c'est tout à fait extraordinaire. Alors, il y en a qui rendent une langue assez archaïque. Parfois plus archaïque que Dante même, en fait. Hein. Et d'autres ont un esprit un peu insolent. La plupart retiennent, justement, l'insolence de Dante. Et parfois, alors, comme ils sont jeunes, ils y vont dans la violence physique. Il y a beaucoup de sang. C'est parce qu'ils sont très marqués par l'enfer, bien sûr. Hein. Mais, excusez-moi, je dis une dernière chose à propos du politique. Vous ne serez pas étonné que Pasolini était un grand lecteur de Dante et que le dernier livre que Pasolini a écrit s'appelle « La divine mimesis ». Bon, c'est un terme qu'il aimait beaucoup, hein, c'est le terme qui vient de Auerbach, c'est l'imitation, hein, la mimesis. Et il a écrit donc une version moderne de la Divine Comédie, située dans l'Italie actuelle, mais il n'a écrit que 4 chants. Donc c'est une œuvre inachevée, mais dans Pétrole, son dernier livre, il y a d'innombrables allusions à Dante. Oui. Ce qui veut dire que c'est quand même un modèle de prophète insolent, enfin de prophète, le terme n'est peut-être pas juste, mais vous voyez, enfin, de tribun insolent.
Merci, monsieur, pour votre conférence, pour tout ce que vous nous avez accordé. Lorsque vous parlez de la modernité de Dante et de son insolence dans ses écrits, cela me fait penser à la même chose dans son environnement, mais pour la peinture. Les primitifs, Cimabue, Giotto et Duccio, par exemple, semblent apporter la même chose par les émotions qu'ils imposent sur les visages des personnages qu'ils peignent. Ils sortent des personnages hiératiques pour nous amener à une humanité beaucoup plus proche de ceux qui les regardent, des dévots qui les regardent. Donc il y a un environnement de Dante qui touche d'autres domaines. Est-ce que je me trompe en disant ça? Mais lorsque vous avez cité les vers de cet enfant qui est allaité par la mère, Roberto Long, il fait la même chose sur une œuvre de Masaccio, la Madonna del Soletico, la Madone du chatouillis, où cette mère chatouille le cou de l'enfant. L'enfant retient la main. Donc là, on a aussi une modernité, une insolence qui n'existait pas avant. Est-ce que donc on touche à un domaine bien plus large que celui de la poésie? Première demande que je vous formule, et une dernière. Au quatrième chant de l'enfer, Virgile emmène Dante auprès de 4 autres poètes, Homère, Horace, Ovide et Lucain, et Dante dès lors se situe lui-même comme un poète. Que nous dit-il de lui lorsqu'il se fixe lui-même comme un poète au milieu des plus grands? Merci.
Écoutez, merci beaucoup. Ce que vous dites est tout à fait juste. Enfin, de toute façon, la peinture, hein, est présente dans la Divine Comédie. Hein, parce qu'il y a un vers célèbre qui est Giotto ebbe il grido. Giotto eut le cri au sens du succès, hein, du succès, de la notoriété. Et donc, oui, la peinture, mais vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de période où on est en train, comme vous le savez, l'Italie est en avance par rapport à la France, hein, sur le plan pictural et même sur le plan littéraire. Donc, on est, en France, on est encore à la fin du Moyen-Âge, alors qu'en Italie, on commence à être dans la première Renaissance. Et il y a une humanisation, en effet, extraordinaire. En peinture, avec des gens simples qui apparaissent, bon, ça va être de plus en plus affirmé, enfin, au moins jusqu'au XVIIe siècle, après ça va changer. Mais Dante fait partie de ce mouvement d'humanisation évidente. Et l'autre question que vous me posiez, c'était...
Parmi
les 4 poètes. Oui, non, ça, bien sûr qu'il était tout à fait conscient de sa responsabilité et de la continuité dans laquelle il se mettait. Mais ses références, c'est pas uniquement donc Lucain, Virgile, Ovide, etc., mais d'autres poètes moins connus d'ailleurs, hein, comme Stas et tout, et surtout les troubadours. En fait, il est à mi-chemin. Entre les troubadours, à qui il donne une importance très très grande, et les grands poètes de l'Antiquité. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Il avait parfaitement raison, d'ailleurs, hein, de valoriser ces troubadours qui faisaient descendre la poésie dans la vie quotidienne et dans la vie, pas uniquement dans le monde de la cour, quoi. Hein, donc, il savait que la poésie avait une fonction immédiate. Hein, alors, il n'a pas écrit d'épigrammes, contrairement à Pasolini, parce qu'en fait, Pasolini, au fond, poursuivra
cette évolution hein, d'une poésie qui devient de plus en plus civile, qui entre dans la vie politique, qui entre dans la vie humaine. Et bon, il est sûr que Dante était conscient de son importance, du fait même qu'il était exilé. C'est-à-dire qu'il était un danger. Il était devenu un danger. Et donc, ça a été... enfin, une des raisons aussi pour laquelle il a été soutenu par Boccace, parce qu'on savait qu'il y avait quelqu'un d'absolument fondamental dans l'histoire de Florence qu'on était en train d'exclure. Mais bon, ça ne concernait pas uniquement Florence. La bonne nouvelle, c'est que ça concernait le monde entier, l'œuvre de Dante. Oui.
Il y a un siècle, il y a eu une polémique entre deux grands orientalistes marqués par le catholicisme, le prêtre espagnol Miguel Astin Palacios et le français Louis Massignon. Que faut-il penser de cette polémique sur l'influence musulmane dans la Divine Comédie?
J'en parle en fait beaucoup, on en a parlé tout à l'heure au repas. J'en parle en fait surtout dans Le Banquet, parce que j'ai traduit également Le Banquet hein, de Dante. Le Banquet de Dante est un texte à la fois poétique et réflexif où il parle longuement hein, de la Divine Comédie, où il donne des clés de lecture de la Divine Comédie. Et alors, donc, oui, je parle en effet de cette polémique Louis Massignon et de Miguel Astin Palacios. Astin Palacios donc révèle une influence très forte. Alors l'influence du monde musulman sur Dante est reconnue par Dante lui-même, hein, parce qu'il cite bien sûr des savants arabes et persans, enfin et perses, auxquels il est redevable, parce que, notamment pour ce qui est de l'astronomie, mais pas uniquement, puisqu'il y a des textes grecs qu'il ne connaissait que par les traductions arabes elles-mêmes traduites en latin, hein, donc il savait parfaitement ce qu'il devait, et il cite hein, un certain nombre de savants arabes. Non, Miguel Astin Palacios a en plus révélé bon, le livre du pardon et le livre de l'échelle, hein, la lettre du pardon et le livre de l'échelle, qui sont deux textes qui se réfèrent au voyage de Mahomet parmi les morts. Et donc on pense que Dante en a eu lecture, en effet. Moi je pense que c'est tout à fait important hein, ce qu'a écrit Palacios, parce que, en effet, il y a une très grande influence du monde arabo-andalou, disons, hein, parce que c'est passé par l'Andalousie, tout ça. Je disais que j'ai fait une conférence à Rabat sur le champ où Mahomet est torturé, donc, et je voulais voir, parce que, en fait, quand Dante décrit le supplice de Mahomet, il ne faut pas imaginer qu'il condamne hein, le monde de l'islam. Bien sûr qu'il sait comment Mahomet est représenté dans le monde religieux, mais en réalité, il y a une très grande ouverture d'esprit de la part de Dante. Le problème, j'élargis un peu le problème musulman, le problème plus général de Dante par rapport aux damnés. Dante avait un problème parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas être complètement contre l'Église. Donc, les autres religions, comment les considérer? Alors, il a eu le subterfuge de dire, mais ceux... Et à un moment, il y a un très beau passage où il dit, on ne peut pas condamner les Africains qui ont ignoré la parole du Christ parce que géographiquement, ils n'y avaient pas accès. Donc, en fait, c'est ça la thèse de Dante qui est quand même tout à fait formidable. L'autre exemple que je prends, qui ne concerne pas la religion, mais l'homosexualité, par exemple. Évidemment, l'homosexualité était condamnée, la sodomie était condamnée par l'Église. Que fait Dante? Il y a, en effet, un champ où il y a les homosexuels qui sont les violents contre nature. Hein, ils sont classés là-dedans. Mais Dante est très malin, il y met son maître. Bruno Latine, qui a été condamné en effet pour homosexualité. Et il dit, oui, mais c'est mon maître, je lui dois tout. Et donc, il a une sorte de recul, sans mettre en cause, évidemment, il n'ose pas aller jusqu'au bout, de dire non, c'est pas un péché, il n'y a aucune raison qu'il soit là. Non, il est là. Mais c'est un grand homme. Et donc, il a eu constamment, au fond, ses positions. Il ne faut pas imaginer qu'il était d'accord avec les condamnations qu'il rapporte. Et Mahomet fait partie, alors que c'est un des chants les plus spectaculaires, hein, parce que la description de la torture de Mahomet est absolument horrible dans le livre, alors que intellectuellement, il savait parfaitement à quel point il était redevable à la pensée arabe, et donc musulmane.
Bien.
Ben merci.
Je rappelle que demain, il y a un film, toujours sur Dordre, au quart à 16h. Merci, au revoir. Oui, on va juste signaler que si vous voulez tenir le livre de M. de Zucchetti, en tout cas les Vite Comédies, vous téléphonez au Temps Moderne et vous le procurerons rapidement. Nous donnerons le délai. Merci.
Merci. Ça va dans les temps.
Pour ce qui est intéressant, on est dans les temps. Et je suis en train de me dire, je vais peut-être vous emmener en voiture, parce que je ne suis pas loin d'ici. Puis on voulait devant la gare.
D'accord. C'est pour rapide, oui.
C'est
7h30, oui.
Ça passe. N'oubliez rien.